Voilà, merci infiniment au Papou d'avoir pris, je dirais, la chose en main et de nous avoir menés sur les terres du mauvais genre rhétorique, grammatical, poétique, littéraire, enfin tout ce que l'on aime avec eux, c'est-à-dire cette espèce de capacité infinie à varier les plaisirs avec les mots du dictionnaire. Et le moment maintenant passé, je dirais, au strictly mauvais genre, au mauvais genre pur et dur, avec cette commémoration. En effet, c'est il y a 20 ans qu'avec Emmanuel Laurentin, amateur de polar, et Jean-Christophe Augier, amateur de bande dessinée, alors que nous terrassions à main nue la célèbre bouchée à la reine au béton de la cantine de Radio France, nous avons eu cette idée géniale, enfin c'est une des rares qu'on ait eue, mais là elle était bonne, c'est-à-dire qu'en définitive, on n'aurait jamais des émissions en y allant séparément, donc on va fédérer nos compétences, on va fusionner nos amours et on va déposer une idée d'émission où on rassemblerait tout, le fantastique, l'horreur, l'érotisme, le polar, la bande dessinée, le cinéma. Et ça a marché, mesdames, messieurs. La preuve en est, c'est que 20 ans plus tard, le canard est toujours sur l'armoire et que nous sommes aussi toujours aussi virulents. Alors le mauvais genre, ne comptez pas sur nous pour le définir. Le mauvais genre, ça ne se définit pas, ça se perçoit, ça se ressent, ça s'apprécie. C'est une sorte d'onde, de miasme, c'est quelque chose qui vous touche au plus profond et qui vous laisse une impression durable et un peu paniquante. Alors en espérant que ce soir, pendant ces heures, 7h30, vous allez l'éprouver grandement. Et mauvais genre, eh bien, bien évidemment, avant tout, c'est l'équipe de mauvais genre. Et je vais vous demander de la saluer élément par élément. C'est notre dame à la licorne. C'est une câlineuse de dragon. C'est une dompteuse de chimères, Céline Duchesnay. Et elle anime évidemment tous les samedis l'encyclopédie des mauvais genres. Lui en botte le pas, l'ogre cinéma, le défibrillateur humain, l'homme qui réveille les salles, Philippe Rouillet. Derrière lui, c'est la fée clochette de l'underground, notre mascotte princesse Tagada, Sixtine Audemer. Avançons dans son sillage, voilà mesdames, messieurs, le bossuet du bis, le chartiste de l'extrême, l'homme qui défraie la chronique, et la chronique, elle adore ça, Christophe Beer. L'accompagne Notre-Dame moins en noir, Notre-Dame du noir, notre distilleuse d'angoisse, Élise Lépine. Tout de noir vêtu, le chapelier fou de mauvais genre, l'exorciste qui fait sortir les démons des cassettes, Antoine Guillot. C'est le pape de la pop-gnose, il est enthousiaste, éruptif et contaminant dans la joie, Paco Pialbo. Et on termine, on ferme le banc avec notre madman, le jardinier des supplices. Il a une carpe de tatoué sur le ventre, ce qui ne l'empêche pas de laisser sa place aux vieilles dames dans les bus, Fausto Fazulo. Voilà, au grand complet ce soir, devant vous et pour vous, toute la République du mauvais genre, tout l'équipage corsaire. Et là, j'oubliais aussi, évidemment, mais je ne l'oublie pas, perdu dans les nuées, dans son bunker sonique, Laurent Polleret, le magnifique, le Médicis de la playlist. Voilà, merci à toutes et à tous. Alors, mauvais genre, bien évidemment, on a travaillé peut-être plus qu'aucun autre la notion de générique, parce que pour nous le générique, ça n'est pas simplement une sorte d'ouverture, c'est véritablement un sas, c'est un porche comme on rentre dans un château. C'est quelque chose qui doit vous faire changer d'univers, passer d'un monde à l'autre. Et donc, à mauvais genre, on a toujours soigné, et on vous a soigné par là même, parce que certaines personnes ne sont jamais au-delà, aller au-delà du générique. Alors ce soir, j'ai demandé à notre ami Laurent Polleret de concevoir un hyper générique. Je signale également, bien évidemment, que nous serons toute cette soirée accompagnés au piano par Grégory Hoth. Voilà, le décor est planté, l'équipe est en scène. Maintenant, nous pouvons passer le porche et entrer dans le monde du mauvais genre. En entrant au studio 104, en prenant place, vous êtes entré dans la gueule du dragon. Le dragon vient de refermer ses mâchoires. Vous êtes donc parti pour la grande descente. Alors on cherche à chaque fois, à chaque anniversaire, un scénario, une manière de progresser qui soit un peu nouvelle. Alors en 2002, on était allé de Rose Bonbon à Rouge Profond, de Delhi à Dario Argento, c'est au centre Pompidou. En 2010, on était allé d'un affect à l'autre, c'est-à-dire d'une imperceptible anxiété jusqu'à la terreur cosmique. Eh bien cette année, on a décidé d'une certaine façon de rendre hommage à la littérature et également de lui tordre le cou, de la pervertir un peu en usant de la carte de tendre. Alors la carte de tendre, la voici, telle qu'on vous l'a enseignée au lycée, telle que vous avez pu la retrouver dans vos études de lettres. C'est la carte de tendre des précieux du XVIIe siècle, les précieuses ridicules, ou plus ou moins ridicules, avec, comme vous pouvez le voir, le lac d'indifférence, la mer dangereuse, la terre inconnue, avec des villages qui s'appellent oubli, légèreté, religiosité, négligence, tout cela est délicieux, tout cela est parfaitement civilisé, poli, tout ça c'est un art de cour. Mais à mauvais genre, ce soir nous avons décidé de passer à une autre carte, non plus la carte de tendre, mais la carte du trash. Et voilà, je vous demande d'applaudir cette nouvelle carte qui nous a été faite par le dessinateur Ludovic de Beurme. Alors là vous pouvez voir à peu près toutes les zones dans lesquelles nous allons circuler ce soir. Je ne les nomme pas, je les nommerai au fur et à mesure pour nos amis auditeurs qui écoutent cette soirée. On va évidemment aller depuis la forêt des Maléfies jusqu'au château sans retour, mais entre les deux, eh bien, il y aura un grand nombre d'étapes particulièrement savoureuses ou inquiétantes. Cela, vous le verrez. Donc, on va entamer notre voyage dans la forêt des Maléfices. Alors vous la voyez, tout en haut, la forêt des Maléfices, eh bien elle est bordée par ce que l'on a appelé la piste des chimères. Et quelqu'un qui a fait du chimérique son royaume et qui traque les chimères et qui les dompte avec un art consommé, c'est Céline Duchesnay, entre les mains de laquelle je vous laisse pour vous acheminer sur la piste des chimères.
Dans la forêt des Maléfices, François, je vous emmène de l'autre côté des sous-bois, dans des climats rendus plus humides par la présence d'un océan. Courbés, dos au vent, marchons ensemble si vous le voulez bien, et fixons l'horizon. Je sais qu'elle se tient là, Je sens sa présence frôler mes bras, chuchoter et gémir à mon oreille. La voilà. Trottant fièrement sur la plage, Karen Chessman est là, chimère des temps modernes, créature mi-humaine, mi-cheval. Karen Chessman a gagné le titre de vice-championne du monde de Pony Play le 2 mai 2015 en Floride. Et si le cadre noir de Saumur est bien connu pour mettre en valeur la discipline équestre de tradition française, il gagnerait peut-être à reconnaître l'IPPC, le championnat international des Pony Players. Son principe ? Proposer le même type d'épreuve, saut d'obstacle, figure libre, croupade, courpette et autres cabrioles, à la différence près que les chevaux sont remplacés par des hommes. Karen Chessman excelle donc dans l'art du pony play. Une pratique associée au monde du SM, dans le corps contraint, les rapports de domination et de soumission, mais que Karen considère comme une discipline artistique, une esthétique avec ses codes précis et sa compréhension du monde animal. En compagnie de son dresseur, elle peut ainsi tirer une carriole, trotter dans la forêt ou enchaîner les allures. Le duo qu'il compose est basé sur un rapport de confiance absolue et une forme de lâcher prise de la part de Karen. Cela reste aussi un entraînement très physique qui, selon ses mots, lui ouvre les portes de sa quête absolue. Car cette pratique est une expérience extrêmement douloureuse, un sacrifice selon ses propres mots, elle qui finit la plupart du temps avec les pieds en sang. Il s'agit de dépasser la souffrance pour aller au-delà de soi-même. Karen possède un équipement unique au monde, fait sur mesure par les Nez-Percés, natifs américains à qui Karen est liée. Elle revêt un corset ornementé d'une longue queue de cheval et sur la tête, un harnachement en cuir de cerf avec des oreilles, un mors et une crinière grise. Aux mains, elle enfile des manchons en forme de sabots. Puis, pour parfaire sa transformation, elle porte souvent au pied des pony boots, des chaussures très lourdes, ferrées, qui ont la forme d'un sabot, et dans lequel le pied est très fortement cambré. Karen devient alors Starfighter, le nom de son cheval. Sa chevelure longue et flamboyante, ses yeux maquillés et son rouge à lèvres rouges, lui apportant une beauté féminine supplémentaire.
Je suis homme, femme et animal en permanence, oui, clairement, ouais. Dans la mesure où je suis tout. L'unité se situe dans justement le fait que les trois soient unis. Donc l'homme, moi je suis homme, hein, je suis né homme, j'aime bien devenir femme aussi. Et donc après le processus suivant est celui de l'animal. Donc l'animalité pour moi je l'incarne en prenant le cheval, je ne prends pas n'importe quoi. Je ne prends pas un mouton, un chien, un chat. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inscrit en moi en fait. Au niveau de la mythologie scandinave, ce qu'on appelle Hamr, H-A-M-R, Hamr, ou Hammer, il y a plein de prononciations différentes, bref. Et donc ça, c'est mon esprit à moi. Donc je l'incarne, en fait. Dès qu'il m'apparaît, je l'incarne. Donc je prends cela. Et je suis les trois. Je suis homme, femme et animal. Et j'assume ça entièrement. Mais pas n'importe quel animal. Je reviens à cela, mais c'est important. Je ne suis pas une araignée, je ne suis pas un scorpion, je ne suis pas un serpent. Je suis quand même un animal, je représente un animal qui est dans la noblesse. Et si je puis simplifier bêtement, je passe de l'homme qui est, désolé de le dire, mais qui est pour moi un esprit primaire, hein, sexuel, etc., très terrien, à la femme qui est plutôt la lune, etc., enfin des choses qui vont un peu plus loin. Et ensuite l'animal. Donc, dans la perfection, pour moi, c'est ça, la Trinité. Bien sûr, ça forme un tout. Je suis la seule personne au monde à être comme ça. Je n'ai pas de communauté. Je n'ai personne à qui me retrouver. Je n'ai pas ça. D'autres personnes jouent éventuellement à faire le cheval, d'autres choses, mais c'est un jeu. Donc, moi, je le vis. Et donc, moi, l'esprit cheval, je le vis en permanence, c'est en moi. C'est ce que je suis. Regardez-moi, je suis l'esprit cheval.
Le pony play s'inscrit dans une pratique plus large que l'on pourrait appeler le pet play, le jeu de rôle animal. Se faire chien, chat, poney ou cheval, emporter les attributs les plus marquants à travers une panoplie, des masques, des prothèses, adopter son comportement, être accompagné d'un maître ou d'une maîtresse, d'un dresseur ou d'un soigneur. Une pratique que l'on retrouve dans le cadre du BDSM, bondage, domination, soumission, sadomasochiste pour nos auditeurs néophytes, et qui se met en scène dans un contexte sexuel. Mais pour Karen Chessman, quoique adepte du SM depuis longtemps, devenir cheval n'est pas une forme d'accomplissement érotique ou sexuel. Elle y trouve une dimension spirituelle, une quête qui invite les gens à intégrer leur part animale. Elle a longtemps vécu en Afrique et en Amérique et a rencontré de nombreux peuples qui n'opposent pas les animaux aux êtres humains. D'ailleurs, en Amérique du Nord, les nez percés ont reconnu en elle un two spirit, un deux esprits. À la différence des Occidentaux, de nombreux natifs américains ne classent pas les êtres humains en deux genres, masculin et féminin. Il peut y avoir trois genres, voire quatre, voire plus. Il ne faut pas diviser le monde en catégories, nous sommes un, explique Karen Chessman. Chacun porte en soi une multiplicité.
Je suis sauvage, je suis rebelle, je suis révolutionnaire, rebelle plus que révolutionnaire, rebelle à tout. C'est un esprit, je suis sauvage, le cheval qui se cabre, tu vois, sur deux pattes, ça vaut des sabots partout dans la gueule à tout le monde, c'est ça. Donc ce que je veux, moi, c'est revendiquer cet esprit de liberté qui est le mien, et si je peux être suivi par des gens, c'est top, quoi, ouais. C'est la future révolution, voyons. Il faut que les gens prennent conscience de leur animalité. C'est ce que je suis. C'est pour ça que je baise avec tout le monde, avec des hommes, avec des femmes, pas que des animaux. Mais quelque part, il y a l'esprit, et cet esprit, c'est ça. La liberté. Évidemment. Pour moi, le cheval, c'est pas un truc avec un joug qui tire un truc. Moi, je peux le faire, hein, c'est dans le cadre SM, c'est fun. Mais bon, ça s'arrête là. L'effort, l'esprit d'effort, autrement, d'accord. Dans le cadre SM, c'est ça. C'est pas mon état d'esprit du tout. Non. La future révolution, c'est ça. La prise de conscience de l'animalité de chacun. Donc je me suis envolé sur l'esprit cheval dès que j'étais jeune. Pour m'évader de tout ce que j'avais dans la tête à l'époque. Et après, c'est revenu. Bon, j'ai eu une période où j'étais marié, j'ai fait un enfant, etc. Bon, ok. Très bien, hein, pas de problème. Et quand il a fallu que je retourne dans un autre monde, que j'ai choisi de vivre une autre vie, c'était pour retrouver ça. Je cherchais cela. C'est devenu un peu une drogue, quoi. Et j'ai trouvé. Parce que ce que je suis, je suis un cheval fou. L'esprit cheval, maintenant, c'est plus un cheval qui est comme ça. Non, complètement fou. Et c'est génial. Parce que c'est l'esprit de liberté, absolu, total.
Les photos que le public du studio 104 peut savourer sont de Laetitia Dabeka. La bande-son a été élaborée par Laurent Polleret. Et pour retrouver Karen, vous pouvez voir le beau documentaire de Jérôme Clément Witz, son titre « Être cheval ».
Karen Chessman, mesdames, messieurs, le centaure, votre carte du trash qui a survécu à la carte du tendre. Alors vous voyez, la piste des chimères a été suivie, cette espèce de long serpent à visage féminin, mais vous remarquez à sa gauche quelque chose de beaucoup plus troublant qui évoque à la fois l'Alice de Lewis Carroll, mais un peu empêtrée dans une sorte de gâteau dont, qui servirait de carcan. C'est en effet une maison en pain, mais très, très, très épicée. Et vous allez voir, avec Sixtine Hautbert, que les épices sont au rendez-vous.
Dans ma maison pain d'épices, c'est le pays des délices. Il y a des doudous masqués qui têtent des biberons de lait. Un petit cheval à bascule qui hennit quand il recule. Des chiots et des bébés chats qui font joujou avec moi. Dans le ciel, dessus le toit, une fée abracadabra. Ce n'est presque pas un univers de comptines que je vous livre ici. Mais le sticky, sweet, collant, sucré, sulfureux Candyland de l'artiste Trevor Brown, guidé par son pinceau, au gré de ses peintures, on pénètre dans la chambrette remplie de jouets et de peluches de Lolita, blonde et menue poupée, au corps à peine formé, et on les surprend affairés. L'une s'amuse à bâillonner tendrement son ourson pour lui donner le biberon. L'autre fait du pony play, entravé dans le carvan d'une bascule. Un petit cheval à manipuler très délicatement. Sur la troisième image, une ondine tout harnachée de rouge cerise et coiffée d'oreilles fluffy de lapinou est forcée de faire pipi dans un pot rose de princesse. Sur la quatrième image, petit Kitty Cat ne tient pas en laisse son mignon camarade de jeu chien-chien pour lui offrir son cœur tout nu, tout ouvert, tout sanglant. Ils jouent tous les deux à chat avec leur plug anal. Et selon notre dernière image, la petite nymphette s'envole, lascivement agrippée à un énorme phallus verni. Réunir le cute et le shocking, associer l'extrême candeur et la plus sombre perversité, provoquée par l'exhibition retorse de rêveries phalliques, est un des buts avoués de Trevor Brown. Son petit monde est politiquement incorrect. Gainé dans du latex luisant et enrobé de papier de bonbon, esquissé sur fond d'arc lequinade aux couleurs poudrées et ciel bleu cotonneux. Toutes ces charmantes créatures ont des allures de poulbo SM, de big eyes et doudou sadien, pédo, sado, maso, ondine, mais aussi échymose, plâtre et svatiska, et oui, rien que ça. Bref, un joyeux mélange de paraphilie, montée en chantilly et saupoudrée de kawaii. Question de liberté d'expression, car vous en conviendrez, tout cela est un peu tiré par la barbe à papa. Trevor Brown déclare ne pas avoir de penchant pédophile IRL in real life dans la vie de tous les jours. Non, tout ce soupçon est bel et bien dans l'esprit tordu, l'œil torve du regardeur, vous, mesdames et messieurs. L'artiste a quitté l'Angleterre, s'est exilé au Japon, où il est, on veut bien le croire, le plus heureux des pervers. Et cela est dit sans mauvaise intention, car mauvais genre aime le Japon, et le Japon le lui rend peut-être bien. La culture japonaise est d'ailleurs massivement et impunément sexualisée. Il n'est donc pas mécontent de quitter ses inspirations européennes, rien moins que bataillennes, pour retrouver ses grands maîtres nippons, comme le très étrange Suehiro Maruo, ou le non moins perturbant Keiichi Ota. Alors la question éternelle de la poule et de l'œuf peut être ici posée. Qui de l'art et de sa fiction ou de la société est responsable du méfait? Qu'est-ce qui produit le fantasme? Sommes-nous libres ou bien esclaves de nos pulsions? Et quelle est sa part de liberté dans l'expression?
Sixtine Audemer, monsieur qui nous présentait l'univers ô combien épicé de Trevor Brown quand Boucle d'or rencontre Zacher Masoch. C'est un petit peu l'univers donc, qui vient de vous être présenté. Alors là, on était dans la maison en pain très épicé, qui est en bord de forêt. Il est temps maintenant peut-être de quitter la maison, de respirer un peu, enfin d'espérer respirer, de gambader dans les futaies. Et là, de retrouver, ma foi, une nouvelle fois avec vous, Céline Duchesnay, une autre chimère. Alors, ça n'est plus le centaure, ça n'est plus l'homme cheval, c'est autre chose.
C'est un être rare que l'on peut trouver dans les sous-bois et qui se nomme Cyril Casmez. Alors, le voilà devant nous. Il est bien campé sur ses pieds, le corps trapu et musclé. Et il a le regard tendre. Pourtant, Cyril Casmez a pu constater qu'il effrayait les gens. C'était l'époque où, acrobate zoomorphe Archaos, il jouait un animal dressé. Certains se demandaient s'il était normal, voire même si on allait le remettre après dans une cage. Mais il faut dire qu'il savait en effet parfaitement être fauve, tout aussi bien singe, cheval, ours, cochon. Et son histoire avec les animaux remonte, à dire vrai, à l'enfance. Petit garçon, Cyril Casmez voulait être un veau. Un désir obscur, je le cite, qui l'amenait à prendre une vache pour mère de substitution. Il passait ses journées l'été avec l'animal, se couchait dans l'étable avec elle, la suivait dans les prés, il voulait lui ressembler et donner à son corps la forme d'un bovin en copiant sa démarche, ses mouvements de tête, jusqu'à ce qu'un jour sa propre mère mette les points sur les i en lui disant « ça suffit ta mère, c'est moi ». De son propre aveu, à cette époque-là, la condition d'être humain l'effrayait et instinctivement il se glissait dans la peau d'un animal pour devenir aussi fort qu'un lion. Une expérience dont il a su tirer profit une fois devenu adulte. Cyril Casmez.
Si on fait le sanglier ou le cochon, ça va donner des... Il y a des trucs, voilà, si c'est des ours, ça peut être... Voilà, des sons comme ça. Après, c'est pas une galerie non plus. Il y a des sons qui viendront... J'ai beaucoup travaillé autour de grognements. Même les singes ne grognent pas, mais un gorille va faire des sons un peu qui sont... Des sons qui viennent de la poitrine en inspiration. Après, évidemment, il y a les sons plus classiques qui montent, des aigus, mais ceux-là m'intéressent moins. Ceux qui m'intéressaient, c'est sons peut-être plus inquiétants, parce qu'a priori, pas du tout humains.
Un son mauvais genre, ce serait lequel?
Allô. Voilà, avec le nez qui se retrousse, des choses où les gens se demandent si on est en train de basculer, de parler comme ça aussi, avec la voix grognée, les chemins, voilà, entre l'exorciste et un animal, je ne sais lequel.
À noter que Cyril Casmez a créé avec la metteur en scène et comédienne Jade Duviquet la compagnie du singe debout qui interroge notre rapport à l'animal. Car si Cyril Casmez est petit à petit sorti de son enveloppe de bête, c'est bien pour nous parler de l'homme.
Voilà, Cyril Casmez, donc là, c'est l'homme au gosier d'or, la capacité d'évoquer tout, il a toute l'arche dans son gosier. Continuons notre randonnée dans la forêt des maléfices. Ah voilà, apparaît quoi ? Le Bates Motel. Parce qu'en effet, si on cherche un équivalent contemporain aux lieux qui ont fait trembler nos ancêtres à l'époque gothique, eh bien on pourrait dire que le parking a remplacé la forêt gothique et peut-être que le motel a remplacé le château gothique, ne serait-ce que par le psychose de Alfred Hitchcock. On a à peu près un équivalent par tout ce qu'il a à la fois de familier, d'inquiétant, et qu'il peut se révéler non pas un repos mais un piège, Élise Lépine.
Exactement, le motel est devenu le lieu commun aux États-Unis et également le lieu mythique. Alors le motel, c'est la contraction des mots motor pour la route et hôtel. Le lieu sort de terre juste après la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Il apparaît un peu ex nihilo. Le motel se tient en général en dehors des villes, en périphérie, parfois en plein désert. L'une des caractéristiques du motel, c'est qu'il représente le degré zéro de l'architecture. Il est simple, c'est un alignement de chambres sans personnalité. Et puis, on y va en général pour se reposer au cours d'un grand voyage, mais également souvent pour se cacher et puis pour attendre son heure, l'heure de frapper ou l'heure d'être frappé, puisque les règlements de compte dans les motels sont nombreux. Et puis surtout, dans un motel, pas besoin de donner ses papiers. On ne vous demandera jamais votre carte d'identité. Vous pouvez arriver dans un motel avec simplement un nom. On n'ira pas vérifier. Une étude de 1935 menée par le gouvernement américain, inquiet de ce qui pourrait se produire dans les motels, a prouvé que sur 109 couples qui ont séjourné en une dizaine de dans un motel, 102 avaient donné de fausses identités. Pensez à Humbert Humbert et Lolita qui vont aller de motel en motel dans leur cavale amoureuse. Et puis, comme vous le disiez, c'est surtout Hitchcock qui va faire passer le motel dans nos imaginaires, qui sera le fils maudit, le rejeton de ce fameux manoir hanté du château maléfique de la littérature qu'on voit d'ailleurs chez Shirley Jackson, par exemple, dans La Maison Hantée ou dans Nous avons toujours vécu. Au château, donc en 1960, le motel entre dans la fiction américaine et devient un véritable symbole du cauchemar.
Et le motel apparaît dans un roman d'un romancier que l'on aime bien, un mauvais genre, William Byer,
qui publie Le rêve des chevaux brisés en 2004. Vous avez un extrait à nous lire, François.
Un homme et une femme font l'amour. Torride après-midi d'août. Un homme et une femme font l'amour dans une chambre de motel. La moiteur est élevée, les draps humides. Les stores vénitiens découpent la lumière, barrant de rayures les deux corps nus, luisants de sueur. Sur la commode tourne un ventilateur. Un ruban attaché à la grille flotte à l'horizontale. Dans la pièce, on entend les halètements rauques des amants, leur respiration saccadée. À l'extérieur, les bruits de la circulation et le vacarme distant du parc d'attractions de l'autre côté de la route. La chambre de motel est standard. Commode avec téléviseur, lit à deux places, moquette beige élimée. Au-dessus du lit, une affiche encadrée de patineurs sur glace, emmitouflés dans des blousons et des écharpes évoluant avec grâce sur un lac gelé devant le clocher d'une église. Sur le mur parallèle au lit, un grand miroir permet aux amants de se regarder de temps à autre. L'homme est allongé sur le dos. La femme le chevauche. Il remue lentement, sensuellement, les yeux dans les yeux, l'ombre d'un sourire sur les lèvres.
Merci beaucoup. Le rêve des chevaux brisés de William Byer, donc aux éditions Rivage. Et cette étreinte qui se passe au Flamingo, un motel en périphérie d'une petite ville du Midwest américain, va très mal se terminer puisqu'à l'issue de cette étreinte torride, les deux amants vont être assassinés. Leurs corps vont refroidir sans que le crime ne soit élucidé pendant très longtemps, d'ailleurs 26 ans. Et au bout de 26 ans, c'est un homme qui arrive dans cette ville, David Weiss, qui est déterminé à découvrir qui a tué ces deux amants. Pourquoi Barbara Fultrain était dans ce motel, elle qui était si riche, qui faisait partie de la grande bourgeoisie. Et pourquoi son amant avait-elle choisi un professeur de lycée? Eh bien, pour découvrir cela, il va, David Weiss, interroger tous les témoins qui ont pu connaître ces deux personnages. Il va aussi plonger dans les archives du psychanalyste qui s'occupait de Barbara. Et on va découvrir que Barbara avait des fantasmes très particuliers. C'était une dominatrice, elle prenait beaucoup de plaisir dans une sexualité sadomasochiste, et puis elle était aussi la mère d'une petite fille qui avait disparu quelques années plus tôt, probablement enlevée par un réseau pédophile. David Weiss, il a une particularité, il n'est ni flic ni journaliste, il est dessinateur judiciaire, c'est-à-dire qu'il fait les portraits robots des suspects dans les affaires criminelles. Et en fait, il va se servir de ce talent pour mener son enquête. Il va aller s'enfermer régulièrement dans la chambre 101 de ce motel où ont été assassinés les amants, et puis il va dessiner au fur et à mesure qu'il va dénouer les liens de cette enquête. Il va dessiner ce qui lui apparaît comme avoir été les différents éléments qui ont amené jusqu'au drame. Et donc on voit sur ce papier apparaître non seulement un crime, mais aussi des fantasmes qui ont entouré ce crime. Et c'est en ça que William Bayer a très bien compris ce que représente le motel dans l'imaginaire américain, puisque le motel, en étant si simple, en étant si trivial, dénué de personnalité, est cette page blanche sur laquelle dessine David Weiss. Il est le lieu où l'on projette nos fantasmes, où l'on projette nos vices, nos turpitudes, nos rêves et nos délires. Le motel, donc, dans l'imaginaire américain, revêt, et on le voit bien dans ce livre de William Bayer, une dimension inquiétante, mais également une dimension extrêmement aphrodisiaque et excitante. Donc je vous recommande, chers auditeurs, la lecture de ce livre, Le rêve des chevaux brisés de William Bayer, aux éditions Rivage.
Merci Élise. Alors, vient d'apparaître sur l'écran une photo de motel. Alors, autant le Bates Motel, décor construit pour le Psychose d'Alfred Hitchcock, est évidemment célébrissime. C'est même devenu le symbole de l'horreur moderne. La silhouette de la demeure se dressant sur la hauteur devient véritablement... Il suffit de montrer cette demeure pour qu'immédiatement on sache très précisément qu'on est dans le monde de l'horreur, de la terreur, et non du fantastique, mais de la terreur-peur. Là, c'est un motel. Je vous mets au défi de savoir ce que c'est, je vous mets au défi d'en avoir peur, puisqu'apparemment c'est un motel absurde, et tout à fait commun, tout à fait semblable à des milliers d'autres. Et en définitive, eh bien, ça n'est pas n'importe quel motel, puisque c'est le motel construit par un monsieur qui s'appelle Gérald Fosse, et c'est le héros d'un livre paru aux éditions du Sous-Sol cette année qui s'appelle Le motel du voyeur. Parce que ce motel, tel que vous le voyez, a été racheté par Gérald Fosse, mais il l'a transformé en la plus extraordinaire machine de voyeurisme de tous les temps. C'est-à-dire que sous les toits que vous voyez apparaître, eh bien, il y a un grenier. Et ce grenier passe à la verticale des 21 chambres du Manor House Motel. Eh bien, à la hauteur, à la verticale de toutes ces chambres, il a foré une espèce d'ouverture qu'il a recouvert d'une petite grille, ce qui lui a permis, lui, le voyeur absolu, de contempler les ébats de ses clients pendant plusieurs dizaines d'années au travers de ces petites ouvertures, à la verticale desquelles, d'ailleurs, il se plaçait à genoux sur le sol du grenier qui avait été recouvert d'une moquette. Je vais vous lire un extrait de ce journal qu'il avait remis au journaliste américain Guettales, qui en a fait un livre à fort grand succès, on l'imagine. Aujourd'hui, c'est réaliser et concrétiser un rêve qui a constamment occupé mon esprit et mon être. Aujourd'hui, j'ai acheté le Manor House Motel. Et ce rêve s'est trouvé consommé. Je vais enfin pouvoir satisfaire mon désir permanent et incontrôlable de scruter la vie des autres. Je vais maintenant pouvoir donner libre cours à mes penchants voyeuristes. Mes contemporains doivent se contenter de rêver de ce que je vais, moi, pouvoir faire grâce au Manor House Motel. 18 novembre 1866, les affaires marchent et je laisse passer des occasions d'observer des clients intéressants. Mais la patience a toujours été mon maître mot et je dois mener à bien cette tâche avec la plus grande perfection et avec brio. L'atelier en sera en mesure de me livrer demain un prototype de grille conforme au cahier des charges que j'ai défini. Je l'attends avec beaucoup d'impatience et j'espère que cela fonctionnera correctement tout en répondant à mes besoins. Et effectivement, cela répond à ses besoins parce qu'il observe ses clients donc depuis Ces ouvertures situées dans le plafond, ils allumèrent la télévision et elle se déshabilla rapidement. Pendant qu'il passait dans la salle de bain, elle fit tomber les bretelles de son soutien-gorge par-dessus ses épaules, puis enfila une longue chemise de nuit avant d'ôter son soutien-gorge par en dessous. Elle se mit au lit et tira la couverture jusque sous son menton. Il sortit, éteignit toutes les lumières et la télévision, mais laissa entrebâiller la porte de la salle de bain où la lumière était restée allumée. Cela me donna la possibilité de concilier quelques observations d'ordre sexuel sur ce couple malheureux. Après l'avoir pénétré sans préliminaire ni lubrification adéquate, il accomplit l'acte sexuel à grands coups de rein et la couverture remontait jusqu'à son cou de sorte que personne ne pouvait voir ses mouvements. Elle commença à se plaindre qu'il lui faisait mal, mais il lui rétorqua « Tu dis toujours que ça te fait mal !» Et il continua de donner des coups de rein jusqu'à ce qu'il jouisse au bout d'environ 5 minutes. Elle n'éprouva pas le moindre plaisir. Elle recommença peu après à se plaindre qu'il n'ait remarqué ni approuvé l'achat de ses boucles d'oreilles. Conclusion, c'est ça la vraie vie. Il s'agit là de vraies personnes. Je suis totalement dégoûté de devoir porter seul le fardeau de ce que j'observe. Ces sujets ne seront jamais heureux et leur divorce est inéluctable. Lui ne sait rien des choses du sexe ou de ses pratiques. Tout ce qu'il sait faire, c'est la pénétrer et donner des grands coups de rein jusqu'à son orgasme à lui. Sous les couvertures, la lumière éteinte. Voilà, un extrait du journal donc de cet étrange personnage, de cet étrange tenancier de motel qui menait effectivement au au fil des décennies, une observation méticuleuse de la sexualité et de la vie privée de ses contemporains, en ayant transformé son hôtel eh bien, en formidable instrument de voyeurisme. On va maintenant clore cette première partie donc, des 20 ans de mauvais genre. On va retourner à la carte peut-être. Voilà, la carte réapparaît et il est temps pour nous, Philippe Rouillet, eh bien, de repartir dans la forêt, mais d'une façon peut-être un peu périlleuse, car le motel, c'est peut-être inquiétant, les chimères également, mais la forêt elle-même reste toujours le lieu de la terreur.
Eh ben oui, c'est un lieu clé et très souvent au cinéma, on y voit une jeune fille, si possible en nuisette transparente, courir derrière un monstre. Alors la situation, c'est assez nigo parce qu'on se demande toujours pourquoi c'est plus simple de se mettre en nuisette et si possible pieds nus pour courir dans la forêt où on ne voit rien et où généralement elle a même pas de lampe de poche. Et pourtant, c'est l'astuce des scénaristes et des réalisateurs d'à chaque fois réussir à caser cette séquence-là. Mais ce qui est intéressant dans le cinéma de genre et dans le cinéma des mauvais genres, c'est comment on tord les situations pour finalement les retrouver, mais les retrouver pour nous les raconter différemment. Et cette histoire de forêt des maléfices, on l'a constamment au cinéma dans tous les films fantastiques. Alors, il fallait que je vous apporte une séquence pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe, et j'ai choisi évidemment une séquence où le cinéaste s'amuse à faire le contraire, c'est-à-dire que au lieu que ce soit la nuit, c'est le jour, et dans cette forêt, il y a assez peu d'arbres parce que c'est les Alpes suisses. Et je veux dire, quoi de plus rassurant que les Alpes suisses ? C'est pas la forêt de Transylvanie. C'est le début de Phenomena. Et il a bien pris soin de nous montrer que la jeune fille là, qui est Fiore Argento, sa propre fille qui a 15 ans, elle est là au milieu de la route parce qu'elle a loupé son bus. Et en fait, elle est dans un truc désert. Et au début, on se dit, bah, c'est rassurant, elle est au bord de la route, mais finalement, il fait froid et il n'y a personne. Donc, l'astuce serait de regagner la seule maison qui est peut-être très, très épicée, comme celle de Sixtine. Et comme elle a l'âge, elle se dit que, ma foi, elle va peut-être y trouver asile. Alors, la musique est celle des gobelins. Hein. Vous avez reconnu les complices de Dario Argento. On est en 1985, c'est Phenomena. Et donc, on a eu la route déserte et maintenant la forêt, et avec toujours cette idée de quelqu'un est là, comme si quelqu'un allait répondre. Et ce qui est très intéressant dans la mise en scène, c'est comment, dans ce type de poursuite, on oscille deux points de vue, c'est-à-dire celui de la victime et celui putatif du monstre. Et là, le monstre est enchaîné. Alors, quel est ce monstre enchaîné ? Il faudra tout le film pour le voir. Mais pour l'instant, les chaînes tiennent bon. Et on va assister à une sorte de montage alterné entre la jeunette qui rentre dans la maison et le monstre qui essaye de briser ses chaînes. Pour les dialogues, c'est facile. Hein.
La jeune fille est en train de pénétrer dans la maison.
Alors, elle rentre dans la maison et petit à petit, la musique va cesser. Alors, Vous noterez que l'argument « je suis étrangère » devrait calmer le monstre. Or non, il a rompu ses chaînes, et c'est au moment où elle monte l'escalier, où très savante a dit « je sais qu'il y a quelqu'un », que la musique s'arrête, il n'y a plus que le tic-tac de l'horloge. Et le silence est encore plus pesant, et à ce moment-là, dans cette déambulation, on s'aperçoit, alors qu'elle est au milieu du cadre, chaque ouverture peut cacher en fait le monstre. Et c'est la grande idée du cinéma fantastique qu'à chaque fois de se dire d'où ça vient, la menace peut venir de partout. Et là, à ce moment-là, Argento rebondit dans l'histoire du cinéma et va marier le monstre et le giallo, c'est-à-dire le meurtre policier à l'arme blanche. Donc la chaîne qu'on a vue, en fait, retenait le monstre, il s'en est servi pour étrangler la jeune fille. Qui se sauve? Mais évidemment, la porte est fermée et lui a récupéré des ciseaux qui lui plantent dans la main. C'est très très mal parti pour cette jeune fille. Va-t-elle survivre à la séquence d'ouverture? L'astuce est de repartir en forêt, cette fois-ci, au bord de l'eau. Et évidemment, il y a une grotte enchantée où, nul doute, elle va pouvoir, évidemment, dans une grotte, on est sûr d'échapper à son criminel. On est dans un cul-de-sac, c'est parfait. Les scénaristes ont bien fait leur affaire. Et ces cris recouvrent complètement les bruits de la cascade, alors qu'on voit en gros plan le ciseau qui rentre dans la tunique blanche, le rouge du sang, et voilà, la tête en arrière, le fracas de la vitre. Cette nouvelle Alice va passer de l'autre côté du miroir, et ça va être fini pour elle. Alors ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, on bascule dans le ralenti. On était venu pour ça, on savait qu'elle ne devait pas finir la séquence, et donc il y a une sorte de magnificence de ça, et la cascade, qui est la cascade de tous nos désirs, de nos fantasmes, se répand, et regardez ce qui va rouler dans la cascade, eh bien, c'est la tête de notre cher Fiore Argento.
On applaudit Dario Argento, Philippe Rouillet, mesdames et messieurs. Alors, comme vous l'avez bien noté, à mauvais genre, on aime les sensations robustes et on aime les plaisirs carnés. Et l'on aime bien également, ma foi, eh bien, la chanson. Et ce qui est important maintenant, c'est d'écouter Christophe Beer, parce que Christophe Beer, on le connaît pour ses chroniques. Mais maintenant, ce soir, vous allez pouvoir découvrir l'interprète.
Fais-moi des bleus quand tu me tiens sous ton étreinte. Fais-moi des bleus pour que je garde ton empreinte. Plus tu me tâches, plus je m'attache. Et je suis à toi, tes talons jusqu'aux cheveux. Ces petits bleus aux jolis tons multicolores me disent mieux que tes baisers que tu m'adores. Et par douzaines ou par centaines, quand je suis nerveux, fais-moi des bleus. Tes cinq doigts marqués sur mon omoplate font comme un bouquet rouge écarlate. Et comme il y en a bien 50 tout autour, c'est Saint-Valentin pour moi tous les jours. Fais-moi des bleus quand tu me tiens sous ton étreinte. Fais-moi des bleus pour que je garde ton empreinte. Je suis une affiche, mais je m'en fiche, car je peux servir de réclame aux amoureux. Fais-moi des bleus quand tu me tiens sous ton étreinte. Fais-moi des bleus pour que je garde ton empreinte. Je suis une affiche, mais je m'en fiche, car je peux servir de réclame aux amoureux. Fais-moi des bleus, des bruns, des verts et des jaunâtres. Fais-moi des bleus pour que toujours je t'idolâtre. Et si tu m'aimes comme je t'aime, quand tu me veux, fais-moi des bleus. Fais-moi des bleus quand tu me tiens sous ton étreinte. Fais-moi des bleus pour que je garde ton empreinte. Il y en a qui causent la vie en rose. Moi je préfère de beaucoup la voir en bleu. Que tu me griffes, que tu me pinces, que tu me mordes, je me rebiffe, mais toujours je te l'accorde. Je suis ton esclave, même si j'en bave. Autant que tu veux, fais-moi des bleus. Oh.
Christopher. Accompagné au piano par Grégory Hopp. On retrouvera Christopher un peu plus tard pour un autre endroit de carte du trash. Alors la carte est revenue magiquement s'afficher sur l'écran. Nous sommes allés de Piste des Chimères en petite maison de pain très très épicée. Après un passage de la mort en ce motel, il est sans doute temps pour nous de faire une, je ne veux pas dire une cure d'ascétisme, mais un moment de paix, de tranquillité, aller dans un lieu dépouillé où nous allons pouvoir refaire le point. Ça va être grâce à vous, Antoine Guillot, qui est pour nous ce soir notre moine du désert, notre frère du désert.
Oui, alors voilà, c'est un moment d'errance. Nous allons peut-être voir une image, première image tout à fait charmante du désert. On erre comme ça dans le désert à la recherche d'oasis qui ne soient pas des mirages, beaucoup en sont, et puis on trouve parfois malgré tout des vieux cadavres desséchés mais qui vivent encore. Voilà, alors c'est là qu'on aurait dû voir une image de monsieur Herman.
Voilà.
Là voilà. Alors elle est magnifique, vous voyez dans le désert, on voit de beaux animaux plein de couleurs, et puis parfois dans le coin en bas à droite, vous voyez le vieux cadavre desséché du vieil auteur qui est dans le purgatoire de la critique. Alors à l'époque c'était Herman. Nous étions en 2010, 6 ans après, il aurait le Grand Prix d'Angoulême, mais à l'époque on ne l'aimait pas beaucoup et nous l'avons rencontré avec grand bonheur. Ça a fait l'objet de deux émissions phénoménales, on nous en parle parfois encore. Et alors dans le désert, on fait aussi parfois d'autres rencontres. Alors attendez, là c'est moi qui dois manipuler, c'est très compliqué tout ça. Qui rencontre-t-on parfois enfin seul dans le désert B? On rencontre d'étranges ermites avec un arbre de la connaissance, allez savoir. Alors on se rapproche un peu et puis là, voilà que surgissent des images d'extase, des images parfois d'épouvante qui vous entraînent et qui vous laissent complètement carbonisés. C'est le génie de Moebius, une des figures tutélaires de mauvais genre, François Angelier.
Absolument, Moebius, eh bien, il était venu une fois, deux fois peut-être à l'émission, dans mon souvenir en tout cas, pour parler de la nouvelle album de Blueberry. Et puis on a appris un jour, nous étions à Toulouse, son départ, sa disparition. Et évidemment, on n'a pas pu ne pas demander à notre ami Jean-Pierre Dionnet, qui n'est pas avec nous ce soir, mais dont la présence hante ce lieu, eh bien, de nous parler de Moebius, de l'évoquer pour nous, puisque pour lui, c'est plus qu'une amitié, c'est quasiment une gémellité stellaire, comme disaient certains auteurs, c'est carrément une sorte de confraternité. On écoute Jean-Pierre Dionnet évoquer, eh bien, la présence de Jean Giraud, dit Moebius.
C'est très marrant parce que tu es un dieu vivant au Japon, tu es une star dans la plupart des pays d'Europe, et je trouve qu'en France, on a tardé à te reconnaître quand même. Je dis ce qui est normal, puisque tu habites là, tu es de proximité, et tu es français. Il dit, je ne suis pas français. Il dit, mon père était champion d'escrime du Mexique, ma mère est partie le rejoindre, on ne l'a pas retrouvé, on a vécu un peu au Mexique. Et dès que j'ai eu un peu d'argent et que j'ai fait Blueberry, j'ai envoyé mes planches de Blueberry par la poste d'une petite maison carrée dans le désert qu'on va retrouver plus tard au Mexique. Et je vivais dans le désert. Je suis plutôt mexicain. En fait, je suis de nulle part. Et c'est ça le grand secret de Moebius, c'est qu'il est de nulle part. Et qu'il a gardé cette espèce d'amour du déplacement, des déserts, et plus tard il ira à Tahiti, plus tard il ira partout, et chaque fois il se sentira bien. Et je crois que son absence de franchouillardise ont fait justement qu'il était universel immédiatement. Alors, il y a eu les copieurs dans tous les pays, Frank Miller première période, Otomo, le croate devenu français Bilal, qui était un de ses disciples les plus respectés et les plus respectables. Mais on peut dire qu'il a influencé tout le monde et partout.
Jean-Pierre Dionnet évoquant Moebius, qui fut pour lui une sorte de jumeau stellaire. Je le répète, on va passer à un autre voyant, un autre grand messie de l'art séquentiel contemporain.
Oui,
Antoine, alors ça n'est plus l'homme de Tahiti ni l'homme du Mexique, c'est l'homme de Northampton.
Alors voilà, nous sommes à nouveau dans le désert, c'est le désert martien, mais qui est cet homme, c'est le docteur Manhattan, figure éminente des Watchmen, les gardiens, une des grandes créations d'Alan Moore, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avec V pour Vendetta. Alors à quoi peut bien réfléchir le docteur Manhattan assis sur son bout de roche à regarder les étoiles? Peut-être pénètre-t-il dans l'esprit torturé d'Alan Moore et voit-il des visions comme cette Dorothy emportée par un ouragan orgasmique, ou Wendy découvrant les garçons perdus et étant emmenée par eux au 7e ciel, ou encore Alice, tiens, encore une Alice en plein stade du miroir, passant à travers le miroir de la dépravation et de la débauche. Ce sont les filles perdues, les Lost Girls d'Alan Moore. Alan Moore qui faisait avec cette œuvre une sorte d'exégèse salace des contes de fées et des livres pour enfants. C'est le miroir, l'autre côté de la médaille, si vous voulez, de From Hell sur la culture victorienne. Ça a été imaginé en même temps. Alors autant dans From Hell, on a une plume acérée, trempée dans le sang et dans la noirceur de Londres. Ici, on a les très belles images, très colorées, très pastelles de Melinda Gebbie pour un livre totalement pornographique et peut-être le chef-d'œuvre de la BD pornographique. Je vous les ai apportés parce qu'il est très lourd. Voilà, sous vos yeux.
Voilà, sous coffret.
Vous avez une édition américaine. Absolument. Ah, mais oui, moi, j'ai mes doudous, c'est comme ça que ça passe. Et alors, c'est un récit évidemment sadien, comme l'avait repéré immédiatement François Angelier. Ça passe dans un hôtel de la Mitteleuropa, l'hôtel Himmelgarten, le jardin du ciel.
C'est autre chose que le motel américain, là, c'est plutôt.
Voilà, non, là, il y a beaucoup plus de dorures et de stucs et de lits à baldaquin dans lesquels ces jeunes filles, grâce à une rencontre tout à fait sexuelle, vont se rendre compte qu'elles sont trois personnages de fiction. Alors le texte est très compliqué, polysémie du texte. Lost Girls sont à la fois les filles dépravées, les garçons perdus de Peter Pan, version féminin, mais surtout et avant tout l'enfance perdue. Et nous avions envie de demander cela à Alan Moore. Est-ce qu'il voulait nous faire retrouver notre enfance perdue, nos désirs enfantins et la naissance de la sexualité? Alors Alan Moore au téléphone et traduit par Xavier Combes, qui était assis à côté de nous, nous a expliqué qu'il voulait faire tout simplement de la bande dessinée, certes pornographique, mais avant tout thérapeutique.
Above all, we wanted Lost Girls to be pornography, but to be a new form of pornography that had the potential.
Par-dessus tout, nous voulions que Filles perdues soit un ouvrage à caractère pornographique, mais sous une nouvelle forme. Nous voulions qu'il s'agisse d'un ouvrage qui puisse apporter une sorte de soulagement, voire de guérison des sentiments, des émotions. Nous avons tous eu une vie sexuelle avec beaucoup de différences, évidemment. Certains ont une sexualité riche, heureuse, d'autres ont une sexualité qui l'est beaucoup moins, peut-être parfois douloureuse. En tout état de cause, cela n'est pas sans conséquence. Certains ont des cicatrices dans leur psyché. Et nous voulions que Filles perdues présente un intérêt sexuel, c'est ce que l'on attend d'un ouvrage pornographique, bien entendu, mais en parallèle, nous voulions qu'il y ait dans ce livre un potentiel de guérison des sentiments et des émotions.
And I think that in that regard, it was incredibly important to us, especially to Melinda, that this be a work of pornography that was capable of talking to women. Because in the past, although women have been the gender that is most likely to be harmed or otherwise abused sexually or emotionally,
et à ce titre, il était très important, particulièrement pour Melinda, que cette nouvelle forme de pornographie que nous voulions créer puisse s'adresser aux femmes. Dans le passé, le sexe faible a toujours été plus vulnérable du point de vue physique et du point de vue moral, et la pornographie ne s'est jamais vraiment adressée aux femmes. Nous voulions parler aux femmes et traiter de la sexualité des femmes, la sexualité des hommes et la pornographie destinée aux hommes étant déjà fort abondante.
Voilà Alan Moore depuis sa tanière, son antre, son royaume de Northampton, là où il est né, là où il a grandi, là où je pense il mourra et qui est pour lui la Jérusalem éternelle. En témoigne d'ailleurs cette année la parution d'un livre extraordinaire de 1500 pages aux éditions Inculte, Jérusalem d'Alan Moore, tout à fait une sorte d'hommage à la Northampton mystique et transhistorique qui est la sienne. Et Antoine Guillaume, on peut quand même signaler la manière dont s'est terminé cet entretien, c'est assez rare à la radio.
Oui, il y a un moment, il a dit, écoutez, il faut que j'aille faire faire mes courses. Excusez-moi, ça fait déjà 2 heures que vous me tenez. Et je précise aussi qu'à l'époque, l'émission était diffusée le samedi après-midi et que juste après la fin de cet entretien, François Anjoli a dit « Et maintenant, Frédéric Mitterrand !»
Voilà, c'est ça. Autre époque, retournons à la carte. La carte de Ludovic de Burn vient de se réafficher. Et après, bien sûr, eh bien, le désert de l'art séquentiel. Vous voyez qu'un personnage apparaît avec sa petite houppe frontale. Eh bien, nous allons nous immerger, grâce à vous, Fausto, dans le marais des angoisses. Le sable mouvant de l'inquiétude.
Avant ça, François, j'ai envie de vous confesser en fait quelque chose. J'étais un peu flemmard en fait. À l'origine, je vous avais proposé une plaine et vous l'avez inondée, vous l'avez transformée en marais. Donc...
Oui, vous m'aviez proposé une plaine. Alors je vous dis, c'est d'un mauvais genre assez limité, sauf la steppe est perdue éventuellement. Mais non, je l'ai transformée en marais, qui est une plaine humide.
Du coup, j'étais un peu flemmard et j'ai été faire quelques recherches de manière très très hasardeuse en fait sur Internet. J'ai été sur Wikipédark, qui n'a rien à voir avec Wikipédia, donc et j'ai tapé marais des angoisses et je suis tombé en fait sur une définition qui me semble être plutôt bonne, donc je vais la lire. Donc le marais des angoisses, en fait, officieusement, il s'agit du plus grand marais répertorié. Il écrase ainsi sans peine en termes de superficie, François, le célèbre Pantanal du Brésil et ses 170 000 km² de prairies et de savanes inondées. Jusqu'ici, tout va bien. Mais cet écosystème hostile, dont la faune ne peut être précisément étudiée pour des raisons plus létales que légales, regorge de squamates aux dimensions extraordinaires, de mammifères en mutation constellés de superbes purulences colorées, miam, de végétaux nauséabonds d'où s'échappent quelques miasmes toxiques, jusqu'ici tout va mal, sans oublier de luxuriantes mangroves recélant de goulus détritivores, parmi lesquels je retiendrai, pour mon panthéon répulsif personnel, si vous me le permettez, des champignons parasites suintant aux formes humanoïdo-phalliques.
Eh ben avec ça, nous voilà partis.
Comme quoi le deep web, parfois, c'est pas mal. Et en rebondissant sur ces formes humanoïdo-phalliques, je vais vous lancer un extrait, celui de Matango, en fait, qui recèle de mycoses géantes, de spores infectieuses et de créatures sans visage. C'est un film donc japonais qui date de 1963 et qui a été confectionné par le génial artisan Ishiro Honda, qui n'est rien que moins que l'un des pères, puisqu'il y en a deux, du lézard atomique Godzilla, ou Godzilla dans son appellation internationale. Vous voyez donc les extraits de Matango, je vais me taire pour vous apprécier, pour vous laisser apprécier ce déluge pop.
Alors effectivement, on observe des champignons grouillants, une espèce d'humus fétide, et le personnage qui détale est talonné par cette espèce de végétation épouvantablement vorace et luxuriante.
Donc nous sommes en 1963, c'est vraiment l'âge d'or en fait du cinéma fantastique nippon. Ce sont des productions de type tokusatsu, ce sont des productions donc à effets spéciaux. Et ces films en fait convoquent toute une série d'artisans en fait qui travaillent notamment sur les effets spéciaux. L'un des plus célèbres est Eiji Tsuburaya, qui a accompagné en fait Ishiro Honda tout au long de sa carrière et a créé en fait toutes ces créatures que vous voyez ici.
Alors là encore, c'est le marais des angoisses, donc ça garde encore un minimum d'humanité, si j'ose dire. Enfin, le second extrait que vous avez choisi, lui, est parfaitement inhumain.
Ah oui, puisque là, en fait, on est littéralement propulsé en fait dans les 16 chambres de l'enfer bouddhiste. Voici un extrait de Jigoku, qui veut dire enfer en japonais, qui est un film de 1960 réalisé par Nobuo Nakagawa, qui n'est autre que l'inventeur de l'horreur japonaise, la J-horror pour les initiés. Alors c'est très intéressant en fait, puisque les trois premiers quarts d'heure du film en fait sont d'ordre mélodramatique, c'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à un film tout ce qu'il y a de plus classique, un peu lourdingue même, et lorsque le réalisateur propulse tous ses personnages suite à un homicide routier dans l'enfer bouddhiste, il lâche littéralement les chevaux, même si ce sont des squelettes ici. On remarquera en tout cas qu'il y a une puissance formelle totale. On est en 1960, âge d'or du cinéma pop japonais. Le film est aussi très gore, on peut même dire que c'est peut-être le premier film gore de l'histoire, avant Herschel Gordon Lewis, qui avait inventé le genre selon les spécialistes en 63 avec Blood Fist. Mais là, 3 ans avant, au Japon, Nobuo Nakagawa invente en fait le cinéma gore en cinémascope, en technicolor. Voilà les démons de l'enfer bouddhiste.
Voilà Fausto Fasulo et les enfers pop de la culture populaire japonaise. Retour de notre carte. Alors là, Chacun connaît ce carton légendaire de Nosferatu. Lorsqu'il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Ah ouais, un carton qui faisait rêver André Breton. Eh bien, ce soir, nous avons un pont absolument dans notre carte du trash, qui est le pont des mutations. Un pont que nous allons franchir en compagnie de, ben, d'abord, Frank Zappa et Paco Mtielli. Micro à la main.
Ok, comme ça, vous ne serez pas tout seul.
Voilà, admirable. Il me rejoint dans la station dressée. Pas contiellement.
François Angélier.
Ok, à l'écran dans quelques instants, j'imagine. C'est un choix d'images qui vont dans l'idée d'une histoire parallèle ou d'une histoire qui irait en zigzag contre l'histoire, un peu comme les caravanes des freaks par rapport aux grandes routes de l'histoire. Ce serait une histoire qui passerait par Bosch, Bruegel, Blake, Jarry, Zappa, Freaks de Todd Browning, qui irait jusqu'à Topor, Kilofer, Mandico. Repenser toute cette histoire par rapport à l'histoire de la métamorphose. L'histoire des métamorphoses, l'histoire des mutations. Si l'histoire classique, traditionnelle, si l'histoire qu'on nous a enseignée, c'est finalement l'histoire de la normalisation du monde, l'histoire de la normalisation de l'homme. C'est un peu l'idée du reste qu'on a dans Freaks de Todd Browning qui s'ouvre sur cette annonce. Les monstres que vous verrez dans ce film sont appelés à disparaître parce qu'il y a la création des rayons X et que bien plus fort que tout le reste, que tout ce qui a pu avant avoir lieu dans l'histoire, est bien plus violent que les cirques errants dans lesquels les freaks ont voyagé. La science va faire disparaître la multiplicité des formes humaines. Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette idée que les freaks sont appelés à disparaître, il va falloir remplacer le freak qui manque. Il va falloir remplacer le monstre qui manque. Donc moi, c'était un peu une sorte de... C'est l'anniversaire de Mauvais Genre, c'est les 20 ans de Mauvais Genre. Donc c'est une sorte d'hommage à Mauvais Genre qui peut fonctionner, c'est l'émission elle-même, comme des petits éléments dans l'idée de construire cette histoire parallèle, cette histoire comme les caravanes de Carnival, alors que d'un côté, on a le prêtre... avec son église des ondes. Carnival, c'est la série de Daniel Knopf, là, que vous voyez ici. On a d'un côté le prêtre, Justin Crowe, qui va amener l'apocalypse avec son église des ondes. Et ceux qui préviennent de l'apocalypse, ceux qui empêchent le monde d'aller à sa fin, c'est les cirques et leur utopie sauvage. Et c'est les monstres qui représentent l'autre lignée. Et eux, ils font un chemin tout en zigzag. Ils passent par le sud, ils remontent vers le nord. On ne comprend jamais le sens de leur chemin. Parce que ce n'est pas la ligne de l'histoire. C'est les lignes internes, c'est les errances. C'est la ligne sinueuse de l'errance. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait Zappa. C'est par rapport à ce mouvement de la jeunesse anticipateur des hippies, qui étaient les freaks de LA. À un moment, les hommes décident de changer la manière de s'habiller, de changer leur manière de vivre, de prendre ce qu'ils ont autour d'eux, de vivre pendant quelques instants une utopie sauvage. Ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 4 ans, on s'en fout. L'important, c'est pas de durer. L'important, c'est à un moment, prendre la liberté. Prendre cette liberté et incarner ça. Parce que ça, c'est pas seulement pour soi. C'est pour tous les monstres passés qui ont été détruits. Et qui sont amenés à être détruits, et pour pouvoir indiquer au peuple de demain qu'à chaque moment, une liberté peut être prise pour retrouver cette capacité que l'homme a à se métamorphoser. Et donc, hommage à Bertrand Mandico, Les Garçons Sauvages, ça sort en février. Il faut absolument aller le voir. Oui. Grand film de mutation. Alors bon, là, c'est pas une mutation forcément de monstre, hein, c'est mutation. C'est une proposition. Par rapport à ces livres d'histoire de l'art qui se créent, qui sont des livres de l'histoire de l'art, qui sont l'histoire de l'art de la normalisation, en fait. On a besoin de contre-livres pour une contre-histoire qui soit l'art de nos métamorphoses, l'art de nos mutations. Vive les métamorphoses, vive Mauvais Genre.
Pas complètement, mesdames, messieurs. Actuellement, dont la victoire des 100 rois est sortie récemment aux éditions PUF. Eh bien, on va continuer notre errance à nous, de maisons en pain très très épicées, de motels mortels, de ponts des mutations, de pistes des chimères, de déserts de l'art séquentiel. On va maintenant arriver, je dirais presque à notre dernière étape, qui est une étape redoutable, puisque c'est l'ultime étape, celle qui est en bas à droite, si j'ose dire, le château sans retour, car ce château n'est pas un lieu de visite, un lieu de villégiature, c'est une nasse, c'est un piège, c'est un lieu où l'on se perd et où l'on disparaît, le château sans retour. Mais dans tous les châteaux, ma foi, il y a plusieurs éléments constitutifs, mais un de ceux les plus importants quand même, monsieur Rouillé, c'est la salle du banquet. Je sais que vous êtes Fingal, vous êtes un gastronome en culotte longue et vous avez toujours du goût pour la bonne nourriture et notamment pour la nourriture cinématographique et la nourriture au cinéma.
Mais parce que ça marche bien ce couple et je veux dire dans la salle, je suis sûr que vous avez tous vécu ça, d'être au cinéma et de voir les personnages qui mangent et vous aimeriez tellement rentrer dans l'écran et manger avec eux parce que vous avez très faim, vous vous souvenez tout d'un coup que vous avez très très faim, super faim et ces aliments qui sont magnifiés par le chef opérateur et ces acteurs qui ont l'air de tellement prendre plaisir à les manger, vous aimeriez les dévorer. Alors on aime la vie, on aime le cinéma, on aime la nourriture, mais le problème c'est que à force de trop aimer, il y a une limite. Et bon, Mauvais Genre, c'est le cinéma de la limite, c'est l'émission de la limite, et la limite en nourriture, c'est la goinfrerie, et ça ne date pas d'hier. Je vous ai rapporté, pour commencer, des images muettes, celles d'Eric von Stroheim, qui s'y connaît en banquet, qui s'y connaît en chair, et c'est dans les rapaces en 1924, il y a un fameux mariage, qui est terrible, vous vous souvenez, le prêtre derrière, il y a des marches funèbres, et après, ils mangèrent. Dis-nous le carton. Et regardez, c'est-à-dire que c'est affreux. Déjà, ce qu'il mange, des carcasses d'animaux, on s'essuie le front avec sa serviette, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une suite de portraits, tous plus vilains les uns que les autres, même les enfants chez Stroheim sont monstrueux, et tout le monde est occupé à manger, personne ne parle. Alors on joue évidemment de la différence des tailles, le gros et le petit, on mange sans essuyer la bouche, on rote, et évidemment on continue à baffrer, même si on en est empêché par les coudes de son voisin. C'est une sorte de course à la goinfrerie, et ne surtout jamais parler, et donc on mange, on se bourre, et ce qui est très intéressant dans la séquence, c'est qu'elle dure. Elle dure. D'abord, on va un peu roter, on va un peu continuer à manger, parce que l'idée, c'est de la durer. Il faut faire effectivement durer les
choses.
On va cuver.
Ce que fait
Stroheim. Et à force de manger, évidemment, le titre qui revient forcément en tête, c'est la grande bouffe. Hein. C'est-à-dire qu'à force de manger, et on finit par la tarte aux fesses, et puis on mange les fesses, et puis on finit par se tuer soi-même. Et de la goinfrerie au cannibalisme, il n'y a qu'un pas que Mauvais Genre a souvent franchi. Si vous nous écoutez, combien d'émissions avons-nous consacrées au film cannibale, que ce soit le banquet cannibale de Massacre à tronçonneuse ou les cannibales italiens dans leur forêt amazonienne, que sais-je. Bon, mais j'ai bien compris que là, on restait au château, on reste entre Jean Chic, même si on s'en fout plein la panse comme chez Stroheim, on est quand même dans des beaux fauteuils, on est dans des beaux endroits. Et donc, pour faire la transition, pour aller jusqu'à cet ultime banquet, j'ai pensé au fabliau qu'avait mis en scène Peter Greenaway dans Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Hein, voilà, ça sonne vraiment comme un fabliau, mais en fait, c'est une relecture de la tragédie jacobéenne. Et tout se passe dans un restaurant fantasmatique, et là, l'héroïne qui est Hélène Mirren, en fait, veut punir son mari qui a tué son amant, à elle, et donc elle a fait appel à Richard Boringer, le cuisinier français, pour qu'il cuisine l'amant mort et le faire manger au mari cocu. Et elle lui propose de commencer par la queue, parce que, comme elle dit, là, tu sais où elle a été. Et donc, c'est ce fameux repas ultime où le mari va devoir manger. Voilà. La photo est de Sacha Verny. On est dans ces rouges qui rappellent l'enfer japonais. Et la musique est de Michael Nyman. Alors, l'idée de Greenaway est d'avoir pris que des gens qui avaient joué dans la tragédie jacobéenne. Là, c'est Michael Gambon, il y a Hélène Mirren. Et l'amant
qui est miellé, c'est Alan Howard. Alors évidemment, on vomit, mais dans le même plan, on va manger. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que dans l'ultime banquet, eat. Alors ce qui va être très intéressant à ce moment-là, c'est qu'on bascule d'un champ contre champ l'épouse, le mari, on les réunit tous les deux et la caméra va tourner. Derrière, on retrouve la toile de Frans Hals, hein, évidemment, qui guide pendant tout le film ce fameux scène de groupe d'archers. Et à la fin du banquet, le cadavre qui est entre les deux époux, c'est vraiment le cadavre qu'il a comme sur un lit, une fois qu'il est dévoré, eh ben, l'épouse ne peut que tuer son mari. Et une fois qu'il est mort, l'insulte suprême. Voilà, cannibale. Et maintenant, on n'a plus qu'à tomber le rideau sur cet ultime banquet.
Philippe Rouillet, merci pour cette... Merci pour cette bouleyante mise en bouche, mon cher Philippe. On va continuer un petit peu la revisitation de notre mémoire de 20 ans de mauvais genre, anniversaire que nous célébrons ce soir au studio 104 de France Culture, de Radio France pour France Culture, avec une de nos émissions qui nous a laissé une sorte de nostalgie accentuée, puisqu'on était au théâtre de l'Odéon en compagnie de Jean-Baptiste Torré et qu'on avait devant nous Jean-Louis Trintignant. Alors Jean-Louis Trintignant était là ce soir-là pour un récital de poésie, comme il aime à en faire, et on nous avait dit, alors voilà, c'est extrêmement simple, c'est 20 minutes, pas plus, et on ne parle que de poésie. Alors effectivement, Jean-Louis Trintignant est venu nous voir, nous avons pendant 20 minutes parlé de poésie, mais après Jean-Baptiste Torré s'est exclamé, bon, tout ça c'est très bien, mais passons aux choses sérieuses, le film italien. Vous avez tourné dans un film, mon cher Trintignant, qui s'appelait « La mort a pondu un œuf ». Alors là, il nous a regardé en disant « Ah, je ne me souviens pas l'avoir jamais vu ». Et a commencé l'évocation de sa carrière italienne, avec notamment quelques grands chefs-d'œuvre, Philippe.
Comme « Le grand silence », le film de Sergio Corbucci, dont Michael Haneke, qui a dirigé après Jean-Louis Trintignant, est aussi un grand fan.
On écoute Jean-Louis Trintignant, donc, dans Mauvais genre, au théâtre de l'Odéon.
Non, mais il était très amusant. Voilà, il a fait ce film avec beaucoup d'enthousiasme, d'humour. Et ça a été d'ailleurs le premier western qui n'a pas marché. Parce que à la fin, en général, le héros, moi je faisais le héros et Kinski faisait le méchant. À la fin, le héros est attendu par, il y avait 10 pistoleries qui m'attendait pour me descendre, j'étais blessé, et puis je comprenais, je sais pas, à cause d'un truc, un rayon dans un ou un reflet dans une lunette, je comprenais qu'il y avait des types qui m'attendaient, je sortais le revolver, je les tuais tous. C'est invraisemblable. Alors j'ai dit à Corbucci, quand même, c'est pas marrant, parce que c'est pas possible, c'est pas vraisemblable. Alors je lui ai dit, si au moment où je dégaine, je reçois un coup de revolver et puis je suis tué et puis ça y est. Et alors on a fait ça, on l'a fait une fois, il a dit je le fais pour te faire plaisir, mais on le montrera pas, on s'en servira pas. Et puis dans le film, il a monté cette scène qui a été une catastrophe parce que le public n'est pas allé voir ce film comme il aurait dû, parce qu'il est très beau, le film.
Il est très beau.
Mais enfin, la fin est insensée, quoi. C'était pas ce qu'attendaient les spectateurs, alors ils sont pas venus. Alors oui, je disais que j'avais fait ce film, alors pourquoi, c'est un rapport avec le film de La morte a fatto un uovo. Il y avait un producteur très sympathique qui s'appelait, je ne sais plus comment, mais enfin, le film était amusant. Je l'ai pas vu, mais il était. Je pensais que ça allait faire un énorme bide. Franchement, qui va voir La mort a fait un œuf. Franchement. Et alors, j'ai dit au producteur qui était très sympathique. Je lui ai dit, tu vas te ruiner avec ce film-là. Si tu veux te rattraper, moi, je fais volontiers un film pour toi. Alors, il me dit, j'aimerais que tu fasses un western parce que tous les westerns, ça marche très bien. Alors j'ai dit d'accord, je fais un western, mais à condition de ne pas parler, parce que les westerns, j'aime bien les westerns italiens, mais on dit beaucoup de conneries, on parle beaucoup, on dit beaucoup de conneries. Alors j'ai dit, mais tu ne fais pas parler. D'accord, et il a commandé le scénario, parce qu'il y avait beaucoup de scénaristes, en faisant un type, le grand silencio, qui ne parle pas, quoi.
Jean-Louis Trintignant, mesdames, messieurs, dans le grand silence, le grand silence. Alors un film iconique pour les amateurs de mauvais genre. Alors malgré tout, je trouve quand même ce soir que nous avons une certaine tendance au calme, à la pondération, que nous sommes presque prudes, monsieur Beer. Il serait temps maintenant que nous sommes dans le château sans retour, que nous avons atteint le point ultime de convergence de la carte du trash. Il serait peut-être temps de mettre les bouchées doubles, de mettre les pouces et de descendre dans la fosse. Monsieur Bill.
Ah, mais volontiers, François. Je vous propose d'ailleurs de nous plonger dans un sous-genre érotique florissant qui sévit, le mot est bien choisi, du début du XXe siècle jusqu'aux années 30 et que les spécialistes ont qualifié de littérature flagellante, soit un millier de romans, souvent, il faut l'avouer, assez convenus, signés par une armada de pseudonymes qui ont gardé leur mystère. Parmi eux, Jean Vergerie. Jean Vergerie, auquel nous décernons ce soir la cravache d'or du mauvais genre.
On applaudit Jean Vergerie.
Jean Vergerie.
Cravache d'or 2017 du mauvais genre.
Merci pour lui. C'est vrai que de 1935 à 38, il écrivit et édita lui-même 7 romans sadomasochistes qui sont, selon moi, des sommets vertigineux de folie littéraire au sens où l'entendait l'oulipien André Blavier. Ce sont les romans les plus insoutenables de tout ce second rayon, agrémentés d'illustrations naïves, comme celles que vous pouvez voir derrière moi qui défilent. Voilà, ce sont les illustrations des romans de Jean Vergerie. Vergerie abdique toute subversion et tout propos philosophique pour réduire l'héritage sadien à l'espace clos des lieux de torture. Ces romans sont mal écrits, mais d'une violence baroque, aux confins du grotesque. Ces textes sont macabres, obsessionnels, maladifs. Ils ne s'encombrent pas de psychologie. La progression dramatique est secondaire. Seul compte les tableaux chocs. Je vais prendre un exemple avec la Clinique des cauchemars. C'est un centre de rééducation et de traitement des maladies nerveuses. Disons plutôt que c'est un bazar d'épouvante dans lequel il n'est question que d'asservissement. On y trouve un robot violeur en fer blanc, dit le mal d'acier, qui semble sorti d'un serial bondissant de William Whitney. Et dans ses effrayants sous-titres de chapitres, Vergerie parfois louche vers le laconisme grinçant d'un Félix Fénéon. Ainsi, ce magnifique « Un chirurgien torsionnaire oublie des épingles dans un sexe cousu ». Le docteur, quant à lui, a le sens pratique et fait gonfler les seins de ses victimes pour les transformer en vaches laitières, au pied desquelles il trait du lait pour son thé. Cet homme est un raffiné. C'est une littérature feuilletonesque dévoyée, étape dégénérée et terminale du roman gothique. Vergerie invente à lui seul le roman sadique, précurseur d'un gore sans entrave, ou plus exactement, usant et abusant de toutes les entraves imaginables. Vergerie est transporté par l'ivresse érotique des bourreaux. Son écriture exagère. L'adjectif y est superlatif, jamais nuancé, toujours solennel. Il met à nu les pulsions les plus inavouables et vise à leur assouvissement immédiat. Ainsi, prenons un exemple avec son premier roman « Torture et lubricité ». Il propose une reconstitution blasphématoire du supplice de Golgotha. 3 crucifiés, donc, et une centaine d'esclaves au cul préalablement farci d'un bâton de dynamite. Ils sont tous attachés à des croix enduites de poids. Une Fraulenschlage, dont on imagine aisément de quel côté du manche du fouet elle se trouve, fait mettre le feu aux 100 esclaves. Les hurlements de douleur s'élevaient. Poussés par 100 poitrines, les flammes léchaient les chairs qui se tortillaient. Une âcre fumée s'élevait dans le ciel. L'odeur des chairs grésillées prenait à la gorge. On pouvait admirer les corps magnifiques des belles filles et des séduisants éphèbes se tordant sous l'action d'infernales douleurs. Quand les poteaux furent bien enflammés, les chairs des fesses bien rôties, le feu gagna l'extrémité des pétards de dynamite. Il y eut alors explosion. Les poteaux s'élevèrent dans le ciel avec la rapidité d'une fusée. Véritables torches en feu, ils s'élevaient jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Ce feu d'artifice humain dura une bonne demi-heure. Enlacés sur l'autel dans une étreinte hystérique, Leni et Fraulein Schlage faisaient coïncider leur plaisir luxurieux avec le spectacle de la douleur et de la mort. Le dénouement vergerien est toujours ignoble, je vous préviens. Prenons d'ailleurs la fin lamentable de ladite Fraulein Schlage dans le deuxième roman, Férocité sensuelle, qui se passe parmi une tribu d'autochtones gourmets des Nouvelles Hébrides. Je vais d'ailleurs, pour que vous l'entendez mieux, descendre avec dans le public. Oui, parce que voilà l'extrait. À l'instant précis où le corps de Fraulein Schlage fut disloqué, l'indigène abattit sa masse avec une précise violence sur la tête de l'ancienne dominatrice de Meinerhof. Elle est allemande, c'est vrai. Il y eut un bruit sourd, un choc d'eau brisée. Le crâne éclata. Vous vous rendez compte? Le crâne éclata. Alors les notables fouillèrent avec leurs doigts à l'intérieur de la tête afin de manger la cervelle. Le chef de cette tribu cannibale fit aussitôt transporter le corps de la suppliciée dans sa hutte. Il désirait violer ce tronc rôti, torturé, encore chaud. J'ai l'impression que vous avez ri à torturer. Vous êtes un prêtre? Bon, enfin, Vergerie est un représentant du commerce assez extraordinaire parce que, à la fin de ses romans, il met toujours un appendice d'une dizaine de pages avec le détail de tous les instruments de torture qui sont dans son roman. Il considère que ces appendices permettent d'aider les lecteurs qui désireraient vivre les joies cruelles de ces personnages. Moi, je retiens pour ma part le palbibindum, ainsi nommé, car caoutchouté et relié à une pompe, il peut augmenter de 2 à 10 fois son volume. Vergerie est le monsieur bricolage du sadisme. Mais, chers amis effarés, nous ne sommes pas les premiers à le saluer, puisque la NRF, oui, la vénérable Nouvelle Revue Française, a déjà cité un passage entier de Vergerie, il s'agissait de l'enfer des voluptés, dans son numéro 101 de mai 1961, j'aime toujours les détails précis. Eh bien, dans ce passage assez dément, cité par la NRF, il y avait, je retiens surtout, un infellateur, et qui, comble d'un sadisme retors, était rapetissé, amputé des jambes pour remplir sans encombrer les draps sa fatale fonction. J'en suis convaincu, Vergerie avait vu, à sa sortie en 1932, Freaks de Todd Browning, tout comme il se souvenait des contes pragicos de L'homme qui rit de Victor Hugo. Qui donc de Jean Paulhan, Marcel Arlan ou Dominique Horry appréciait cette prose qui se détraquait quand la mort se mettait en marche? Qui donc était Jean Vergerie, un rentier excédé par les mièvreries des curiosas, un sataniste en charentaise, ou bien encore un petit fonctionnaire de préfecture? Entendez-vous ces plaintes lancinantes? Ce damné hurle d'agonie. Il a peur de l'anonymat. Nous devons sauver Jean Vergerie. Sauvons-le, messieurs, dames. Y a-t-il un éditeur dans la salle? Y a-t-il un éditeur dans la salle? Gallimard, je te parle. Gallimard, m'entends-tu? Vous êtes de Gallimard, monsieur? Non, pas vous. Je exige que Gallimard édite l'œuvre complète de Jean Vergerie en Pléiade. Et je serai son préfacier en Dolori.
Christophe Beer.
Attendez. Pardon. Un dernier extrait pour la route, peut-être. Bien. S'il vous plaît.
Avant le retour.
Oui, parce que cet extrait, il est assez gratiné. Fraulein Schlage s'était emparée d'un fouet et d'un trident. Elle avait pris la pose statufiée de la justice. Et cette allure théâtrale en un tel lieu ne manquait pas de grandeur. 2 serviteurs soutenaient Leni. D'un coup de trident, la dominatrice de Meinerhof, elle est toujours allemande, la précipita vers la cuve aux excréments. Longtemps, son corps sanguinolent flotta sur la vase, puis il s'enfonça dans cette boue fétide et nauséabonde. Alors, pour célébrer la mort de son amante, Fraulein Schlage se masturba sur le rebord du précipice.
Merci pour Jean Vergery, Ravage d'or, mauvais genre 2017, et pour Christophe Beer, son turiféraire le plus assidu. Alors, comme nous sommes dans un château, comme nous sommes dans le château sans retour, il est nécessaire que nous fassions une petite escapade. Ben, ce sera notre dernière étape dans le donjon avec vous. Etienne Guillot, tiens, c'est nouveau, vous avez changé de prénom au long de la soirée. Antoine Guillot, grâce à la série qui s'appelle elle-même Donjon.
Oui, merci André Angelier. C'est
trop
effectivement,
aimable, ami, trop aimable.
Ce n'est pas pour rien que vous terminez cette émission par le château et son donjon, parce que c'est l'image même en fait de cette émission. Vous voyez en haut de cette bande dessinée, de cette page de bande dessinée, la maison de la radio dans la brume automnale. On y rentre par une porte en plomb cachée au cœur de marais infectes, des kilomètres de couloirs tapissés de mousse et de salpêtre. Ceux qui connaissent la maison de la radio et qui y travaillent savent de quoi je parle. Et c'est quoi? C'est le donjon, c'est mon donjon, dit le gardien du donjon, François Angelier lui-même. Alors, le principe de cette émission de Mauvais Genre, vous le savez, c'est plus de 1000 morts par mois. C'est, alors, vous voyez ici un invité de Mauvais Genre qui attend devant la maison de la radio avec son épée à la main. Il pénètre dans la maison de la radio. Il y a d'anciens invités qui sont encore cloués au mur. Il croit qu'il va pouvoir briller, dégommer les chroniqueurs de l'émission. Mais non, il y a toujours un Jean-Baptiste Toré pour lui rabattre le caquet d'un coup de massue. D'un cri de Zongo et l'or accumulé, la connaissance enrichit encore cette émission. Alors voici François Angelier, tout petit, entouré de ses grands chroniqueurs tout autour de lui, des orques, des brous, des vampires, des gorgones, des garous, des dragons vieux comme le temps qui veillent sur les trésors de cette émission, des dragons un peu impulsifs, parfois qu'on calme avec un bon poulet. J'ai un bon poulet, reviens ici, il est où le bon pouek pouek? Veuillez excuser ce dragon, il est un peu jeune, car oui, les chroniqueurs sont un peu jeunes parfois dans cette émission, surtout quand ils finissent dévorés par un lapin qui se paye un bon cuisseau de dragon. Alors vous aurez remarqué qu'il y a quelques changements graphiques ici, ce n'est pas toujours le même style de dessin. Et alors la beauté de cette série de donjons, c'est qu'elle est née juste après Mauvais Genre, sans doute Trondheim et Sfar, inspirés par Mauvais Genre, se sont dit il faut créer la série qui va l'accompagner. Donc en 98, un an après Mauvais Genre, naît Donjon et qui va naître comme ça et proliférer. Plus de 300 albums étaient prévus, il n'y en aura que 36 avec tout de même 19 auteurs. Alors ici, c'est Andreas, grande interview d'Andreas dans Mauvais Genre. Ici, vous avez Manu Larcenet qui représente le Café Les Ondes à côté de la Maison de la Radio, où parfois les chroniqueurs vont se reposer après une émission. Et François Angelier,
salut.
Qu'est-ce que vous faites? Vous vous tournez les pouces tous en même temps. Venez, c'est l'heure d'enregistrer. Venez vite. Voilà, alors vous avez ici Jean-Christophe Menu, aussi, qu'on a beaucoup aimé ici, faisant un démon, le démon Asdébarot, très serviable, qui va descendre les gens de cet arbre au lieu de les dévorer. Vous avez Blutch, qui est venu aussi nombreuses fois dans cette émission, racontant que quand il y a un cadavre dans la rue, il ne faut pas perdre, il faut le manger, parce que les hommes ont bêtement l'habitude d'enterrer les cadavres. Non, mangeons-les, et puis il ne faut surtout pas mal parler à sa mère, parce que sinon on se fait croquer la tête immédiatement. Voici Kilofer dans ses grandes œuvres, nous montrant des monstres marins saturant complètement l'écran, et Kilofer créant un personnage qui, je ne sais pas pourquoi, m'a souvent fait penser à Paco Mtielman.
C'est vrai.
Le personnage de Chivomise. Chivomise, ça veut dire ta mère peut pleurer son fils. N'est-ce pas, Paco Mtielman? Alors, vous l'avez d'un côté dessiné par Kilofer.
C'est mon nom, ça veut dire la même chose en égyptien.
Je le savais, je l'avais senti. Nous avons des âmes communes. Et alors, il est d'un côté dessiné par Kilofer, de l'autre par Johan Sfar, grand dessinateur. Et puis ici, vous retrouverez dans cette magnifique planche de tabularité, hein, si on veut parler critique de la bande dessinée, vous voyez Chivomise là sur son balcon. C'est une image signée Frédéric Bézian, aussi grand invité. Alors lui, je l'aime particulièrement, c'est le mal absolu. Alors je vous laisse deviner qui parmi les chroniqueurs de Mauvais Genre incarne le mal absolu. Je suis le mal absolu et j'espère que vous ne me dérangez pas pour rien. Le voici par Lewis Trondheim, le voici par Monsieur Mazan, le voici par Monsieur Alfred, et voici quelqu'un que nous aimons beaucoup à Mauvais Genre, n'est-ce pas, pas comme tellement François Angelier, c'est Stéphane Blanquet.
Ah,
alors
bah,
le
oui,
mal absolu, il faut savoir...
recevra notre visite.
Parfois, il finit très mal, il finit complètement pulvérisé, comme ça, d'une pichenette. Parce qu'il faut le dire, dans Donjon, les personnages finissent souvent mal. Ici, voici un personnage qui, avant, était très gentil, qui est devenu très méchant, qui est devenu le grand khan sur sa montagne de cadavres. Et le donjon lui-même risque de mal finir. Regardez la ruine. C'est le dernier tome, la fin du donjon, mais tout renaîtra et peut-être qu'un arbre fleurira sur tout ça. Alors, pour pas trop vous déprimer, je vous laisse sur une image absolument romantique et magnifique, une image que Gustave Doré aurait pu signer et qui est en fait signé Christophe Blain, où vous voyez une lézarde tueuse Alexandra en plein amour sur un balcon avec un hibou justicier Hyacinthe, connu sous le nom de la chemise de la nuit.
Antoine Guillot dans ses grandes heures, évoquant le donjon qui est la dernière étape de cette trajectoire nocturne que nous avons conçue pour vous à l'occasion des 20 ans de Mauvais Genre dans le studio 104 de Radio France. Je vous demande d'applaudir une ultime fois l'équipe de Mauvais Genre, Céline Duchesnet, Philippe Houllier, Sixtine Aubert, Lemaître Beer, Élise Lépine, Antoine Guillot, Paco Pielman et Fausto Fasulo. Et puis au piano, Grégoriot qui nous a accompagnés et qui est en train de jouer l'hymne de Mauvais Genre, parce que comme toute république, nous avons un hymne officiel. Et c'est le thème du film Saludo Sombre de Sergio Solima. Alors le mauvais genre gagne, le mauvais genre se répand. Et dès cette journée du 2 décembre, vous pouvez voir à Paris, rue Dieu, chez Agnès B, une exposition consacrée à cet univers. Il y a à la fois l'univers pictural des membres de l'émission, mais également un hommage à Marjorie Cameron, la grande artiste luciférienne américaine, et puis la part maudite, le fond. La part mauvais genre du fond Agnès B, donc c'est à découvrir maintenant. Et puis l'an prochain, en mai 2018 au Havre, il y aura un festival Fais pas ton mauvais genre, où on retrouvera beaucoup des personnes dont nous avons parlé ce soir. Alors c'est la fin de cette soirée, merci d'avoir été là toutes et tous. C'est le moment également où l'on doit remercier, se souvenir, évoquer ceux avec qui l'on a travaillé depuis toutes ces années. Je remercie effectivement tout d'abord Laurence Bloch pour nous avoir trouvé le titre et Claude Evenot pour nous avoir poussé évidemment à faire cette émission. Je n'oublie pas qu'on couvait de leur attention mauvais genre Jean-Marie Borzex, Patrice Gélinet, qui un jour d'août 1997 m'a dit « Ah ouais, mauvais genre, pourquoi pas, essayons ». Eh bien, 20 ans plus tard, on continue d'essayer. Merci à toi. Laura Adler, qui aimait bien que je lui parle de manga, je pense que c'est toujours la chose. Bruno Patino, qui ne m'a toujours pas rendu mes DVD érotiques japonais. Cadeau, ami, cadeau. David Kessler, qui aimait bien Maigret. Olivier Poivreau d'Arvor, qui nous a fait un mauvais genre king size. Et puis Sandrine Trainer, merci de nous avoir offert le 104 et toute cette soirée pour notre anniversaire. Les réalisateurs de Mauvais Genre ont toujours été des personnalités chères à notre cœur. Bernard Treton, Brigitte Aléo, Brigitte Mazir, Laurence Millet et Laurent Polleret. Alors applaudissez-le, parce que lui, c'est un grand artiste. Et puis autour du plateau de Mauvais Genre, des gens se sont succédés pendant ces 20 ans que je tiens à saluer. Annelise David, qui a été avant Céline Duchesnet, l'initiatrice du discours sur la pornographie et l'érotisme, qui nous a fait rencontrer Pierre Halle et Molinier, Marie-Catherine Cayava, la femme Wolster, Marie-André de Saint-André, qui croquait du chocolat en direct en parlant de Gilles Deleuze, Hélène Frappa, notre reine gothique, Christine Gomariz, tout en noir intégral, Nathalie Benat, la spécialiste de Dashiell Hammett, Florence Alcaïd, Villanueva, pardon, et Anaïsien, qu'on connaît également dans l'émission d'Emmanuel Laurentin. Et puis du côté, je dirais, le vestiaire homme, salut à toi François Rivière, avec qui on a passé 4 heures à Londres, à parler avec Christopher Lee, Martin Pierre Baudry, avec qui j'ai essayé vainement de faire parler Katsuhiro Otomo, Jean-Yves Baucher, qui nous a guidés dans le noir pendant toutes les premières années de l'émission, Jean-Daniel Breck, maître traducteur, Jean-Pierre Bouixou, l'homme des fascinations, Joseph Alterac et Michel Meurgère, les deux érudits, les deux maîtres redoutables de l'érudition fortéenne et improbable, Frédéric Lavignette et ses perles noires, Xavier Mauméjean et son homme éléphant. Et puis un grand signe, une grande gratitude pour Aurélien Bello et Benoît Puech, nos archivistes, et Laurent Michel, les archivistes de l'émission. Ce sont des gens qui possèdent toute l'histoire de Mauvais Genre. Vous pouvez vous adresser à eux, ils vous communiqueront les émissions souhaitées. Et puis cette soirée anniversaire des 20 ans de Mauvais Genre n'aurait pas été possible sans le service communication de France Culture, la Dream Team menée par Laurent Sodras, Virginie Noël et Marie-Julie Baudreau. L'équipe technique, Alison Ascrizzi, Romain Lenoir, Pierre Horry, Jaizan Taous, Sophia Merfouj, Gilles Gouel et Maxime Bayol. Voilà tous les artisans de cette histoire sur 20 ans qui nous permet chaque samedi, de plus en plus, une fois encore, de crier une bonne erreur, c'est Mauvais Genre. Merci à tous. Thank you.